Du coup, je vais vous proposer, s'il n'y a pas d'autres questions, de continuer de tenir le timing et d'entamer ce temps 3 de cette troisième journée avec deux interventions qui vont être liées. Et voilà, j'invite le professeur Nicolas Franck à nous rejoindre. Professeur Nicolas Franck qu'on ne présente plus, mais qui est donc du coup psychiatre sur le centre hospitalier Le Vinatier et qui est également président de l'association francophone de remédiation cognitive.
Bonjour, eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité à communiquer cet après-midi. Je suis très honoré. C'est un congrès à la fois d'un très bon niveau scientifique, j'en fais beaucoup et je dois dire que celui-ci est un des meilleurs que j'ai vu en France dans les dernières années, et en plus qui permet probablement de poser les briques pour l'avenir, pour améliorer nos pratiques, donc tout ce qu'on peut préférer, la science et la mise en application. Donc là, je ne vais pas vous parler d'une revue de littérature internationale, je vais vous parler de ce qui se passe en France pour améliorer les pratiques, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, je ne vais pas revenir sur les définitions du rétablissement, sur les approches centrées rétablissement non plus. Il y a eu beaucoup de débats ce matin. Je pense qu'on peut effectivement réfléchir là-dessus. Mais là, mon propos, ce n'est pas celui-ci. C'est plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser le rétablissement des personnes avec globalement tout ce qui a pu être dit. Donc, le rétablissement, si je simplifie, possibilité pour une personne concernée par des troubles mentaux d'aller suffisamment bien selon ses propres critères. Si cette définition vous convient, on la garde, on peut dire que c'est se rétablir, on peut dire que c'est aller de l'avant, plein de choses. En tout cas, je vais garder le mot rétablissement parce qu'à partir du moment où il devient consensuel, je crois que ça sera plus simple de ne pas en changer de nouveau. Donc l'approche centrée rétablissement, c'est la prise en charge qui met les personnes dans les conditions les plus favorables pour permettre cela. Encore une fois, ça a été bien dit, on ne peut pas déterminer le rétablissement d'une personne de l'extérieur, le rétablissement est subjectif, mais par contre, on peut quand même mettre en place des choses qui sont plus favorables au rétablissement des personnes. Moi, mon intérêt personnel pour la réhabilitation psychosociale d'abord, pour le rétablissement ensuite, et puis mon engagement par la suite, ça vient de constatations pratiques. J'ai commencé à être psychiatre dans les années 1990. Ni les conditions matérielles, ni les prises en charge qu'on proposait n'étaient acceptables pour les personnes qu'on ne consultait jamais pour des grandes décisions, simplement parce qu'elles étaient sous contrainte et qu'elles passaient Noël autour du sapin avec le chef de service. Ça m'a choqué, ça m'a fait aller de l'avant, et comme j'avais un cursus scientifique en parallèle, une équipe de recherche au CNRS, sur les processus cognitifs, eh ben, j'ai mis là-dedans la remédiation cognitive plus fortement, parce que pour renforcer le pouvoir d'agir et de décider des personnes, il faut avoir des fonctions cognitives qui vont le mieux possible. Donc ça paraissait complètement évident. Et puis après, on a développé, avec Isabelle Amado qui va parler juste après, des recherches sur le domaine, une association sur le domaine, des formations dans le domaine et tout un réseau qui existe, dont on va vous parler très brièvement, puisqu'encore une fois, l'enjeu, à mon avis, c'est plutôt Isabelle qui va faire ça. L'enjeu pour moi, ce n'est pas de vous dire tellement ce qu'on a fait, mais plutôt comment le reste va évoluer. Donc, je vais plutôt vous parler de formation avec des propositions très pratiques pour les établissements. Que peuvent faire les établissements et que peuvent faire les équipes par rapport à tout ça? Et puis, vous me direz si ça vous convient. Si vous me dites rien, tant pis, je repartirai comme ça. Je serais venu pour pas grand-chose, mais j'aurais quand même assisté à un beau congrès, donc merci. Alors, quelles sont les demandes des personnes? Puisqu'on a dit qu'on s'intéressait aux demandes des personnes plutôt qu'à leur maladie. Nous avons une cohorte nationale qui implique 6 centres référents de réhabilitation psychosociale situés à Bordeaux, Limoges-Poitiers, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. Ça a été soutenu par des ARS et je les remercie ici publiquement. Eh bien, c'est dans cette cohorte systématique, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent dans ces centres font l'objet d'un recueil systématique de données. Donc, on voit les demandes des personnes, puisqu'elles sont recueillies parmi plein d'autres variables psychosociales, parmi des variables cognitives et aussi parmi les éléments de la prise en charge. Donc on voit que les personnes demandent avant tout, à pratiquement 80%, à pouvoir avoir une formation ou un emploi. Ça, c'est du concret en France. Toutes les personnes qui viennent nous voir demandent ça. Enfin, 4 personnes sur 5 qui viennent nous voir demandent ça. Je rappelle, 10% des personnes avec schizophrénie travaillent en France, 30% en Allemagne. Probablement, au moins 30% peuvent travailler, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit moins capable en France qu'en Allemagne de travailler, mais plus probablement plus que ça. Toutes ne pourront pas travailler, mais celles qui le peuvent, il faut pouvoir les accompagner vers l'emploi. Les a priori, la stigmatisation avec l'idée que schizophrénie égale impossibilité de travailler contribue à cet état de fait. Premièrement, le travail. Deuxièmement, le fonctionnement cognitif. Alors, c'est peut-être un petit peu biaisé, puisque nos centres, ils s'appellent réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive. Mais néanmoins, on sait très bien que c'est très important de pouvoir retenir un numéro de téléphone pour pouvoir travailler. Si on vous dit le numéro, puis que vous l'avez oublié une seconde plus tard, mémoire de travail altérée, vous ne pouvez pas travailler. Troisième élément, près de 70% demandent une meilleure gestion des symptômes. Bon, ça tombe bien, on propose de la psychoéducation qui permet quand même globalement d'améliorer ça. Et puis les relations interpersonnelles, et ces quatre domaines sont les domaines demandés par la majorité des personnes concernées, puisque c'est les domaines qui concernent plus de 50% de la population. Donc dans cette cohorte, nous avons plus de 2000 personnes actuellement. Là, quand cette extraction était faite, il y en avait 1400. Donc personnes avec des troubles mentaux sévères, avec des troubles du spectre autistique. Sincèrement, je pense que c'est un travail utile. On manque de données françaises. On a vu ce matin des études où la France ne s'engageait pas. Là, on a une belle étude. Et moi, je voudrais vraiment que toute personne qui peut le faire ici engage son établissement et son équipe dans ce recueil de données. La seule contrainte, c'est de le faire pour toutes les personnes qui viennent. Sinon, ça biaise et ça n'a aucun intérêt. Donc pourquoi mettre en place des approches centrées rétablissement? Bon, ce n'est pas la peine de répondre à la question, on a vu largement nécessité éthique, c'est la demande des personnes, et puis en plus, c'est efficace. Et puis le taux de rétablissement avec les prises en charge habituelles est très faible. On a une méta-analyse finlandaise qui montre que 13,5% des personnes, après un premier épisode psychotique, se rétablissent. On sait que des personnes peuvent se rétablir, mais trop peu, on a une marge d'amélioration absolument considérable, donc on doit modifier nos pratiques de soins pour augmenter ce taux. Alors les valeurs... C'était également largement dit, hein, Anthony est recité là, prendre en compte la personne plutôt que la maladie, favoriser sa réussite, sa satisfaction et ses choix, le considérer comme un partenaire à part entière, favoriser évidemment ses préférences, il y a plein d'autres choses. Je voulais redonner simplement quelques éléments essentiels et aller vers quelque chose qui peut peut-être nous aider à mieux comprendre ce qu'on fait. D'habitude en médecine, on valorise plutôt la recherche du rétablissement clinique, on cherche à réduire des symptômes. Depuis avant-hier, on parle du rétablissement personnel. C'est-à-dire que la personne accède à un niveau de fonctionnement satisfaisant, à une vie qui la satisfait, et il y a une disjonction entre les deux. Patricia Digan nous dit « Ce qui m'a permis de me rétablir, c'est de savoir ce que je pouvais faire et ne pas faire. » Et là, elle a introduit la dimension fonctionnelle. C'est une usagère qui nous dit ça. Et ça, ça définit notre démarche. Parce que notre démarche, c'est de montrer aux personnes ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire, et renforcer ce qu'elles peuvent faire. Renforcer le pouvoir de décision et d'agir avec des outils comme la remédiation cognitive, l'entraînement des compétences sociales, la psychoéducation, etc., etc. Donc là, on est dans une démarche de rétablissement d'approche fonctionnelle pour soutenir le rétablissement personnel. Pour expliquer le contexte très concrètement, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc les outils, bien, il y a tout d'abord le fait de mettre en évidence effectivement les choses à travers une évaluation, de s'assurer que la restitution est de bonne qualité pour que les personnes se saisissent des résultats. Donc là, on n'est pas dans des évaluations à but scientifique, comme ça a été dit juste à l'instant. On est dans des évaluations qui sont là pour profiter à la personne, pour l'éclairer sur elle-même. Et puis ensuite, renforcer le pouvoir d'agir à travers des prises en charge. Ben, j'en cite quelques-unes, c'est loin d'être exhaustif, mais vous voyez qu'il faut prendre en compte, et j'ai une diapo là-dessus, la paire aidance, parce que c'est extrêmement important dans des approches centrées rétablissement, non seulement extrêmement important, mais je pense carrément indispensable. Les directives anticipées en psychiatrie ou plan de crise. La construction, évidemment, d'un plan de réhabilitation psychosociale qui est celui qui est proposé par les soignants pour soutenir le plan de rétablissement qui est propre à la personne. On ne peut pas faire un plan de rétablissement. Alors, parfois, on dit ça pour simplifier. Mais le plan de rétablissement, c'est celui de la personne. Nous, on fait un plan de réhabilitation qui va en perspective. Et puis, pour renforcer le pouvoir de décision et d'agir, comme je l'ai dit, la remédiation cognitive, la psychoéducation, etc., etc. Et bien entendu, on doit soutenir les proches. Donc ça, on le fait de manière tout à fait systématisée. Dans la pratique, enfin dans la conception, et puis ensuite, évidemment, on adapte à chaque personne. Il n'y a aucun programme qui peut répondre aux besoins de toutes les personnes. Donc, pour avoir le maximum de souplesse, il faut une offre de soins extrêmement large, et puis il faut une attitude de tous les personnels qui conviennent pour faire ça. Donc, il faut des formations sur lesquelles on va revenir juste après. Donc, comme je l'ai dit, une évaluation, une restitution appropriée à la personne pour qu'elle puisse se saisir les résultats, ça veut dire se mettre à sa portée, ça c'est extrêmement important. Et puis ensuite, tout ce que je viens de dire, sans oublier, évidemment, de s'appuyer sur les ressources de l'environnement. C'est la dernière case en bas à droite. Donc ça, ça a été mis en place dans les centres de réhabilitation psychosociale. Il y a les 6 centres référents que j'ai cités là, mais aussi beaucoup d'autres centres en France. Il y a environ 45, 50, peut-être un peu plus de 50 structures. Il y a des cartes sur Internet qui font ça. Donc, premier contact, un avis. On voit la personne en tant que personne de la société, l'impact de sa maladie sur elle-même. On décide avec elle s'il est intéressant qu'elle puisse être éclairée sur ses difficultés et sur ses capacités préservées grâce à une évaluation multidisciplinaire. Là, c'est l'évaluation psychosociale, l'évaluation de l'autonomie, l'évaluation cognitive, donc si elle l'a décidé. Et puis une restitution qui va permettre de l'éclairer. Et en commun, encore, décision sur d'éventuels outils de soins, de réhabilitation psychosociale, pour renforcer les capacités quand c'est nécessaire. Donc c'est un parcours à la demande, selon les besoins propres de la personne, qui peut s'arrêter à n'importe quel moment ou qui peut comprendre plusieurs cases à l'intérieur de chaque carré, puisque des programmes de remédiation cognitive, on en a une dizaine dans les gros centres, des programmes d'éducation thérapeutique, on en a au moins 5 en général, compétences sociales plusieurs, etc. etc. Et puis des espaces de transfert qui peuvent être dans le milieu sanitaire, dans le milieu médico-social ou dans la société en général, le but étant de toute façon l'inclusion sociale. Donc ensuite, on peut aller plus précisément sur ce qu'il faudrait faire sur chaque territoire de santé. Projet territorial de santé mentale, c'est le moment de réfléchir à tout ça. Donc il faudrait disposer d'interventions les plus précoces possibles. Intervention précoce, quelqu'un qui rentre dans une psychose ou un trouble mental sévère, il faut pouvoir s'en occuper correctement. Ça, il faut le faire évidemment au niveau du PTSM ou au minimum au niveau de l'établissement, pas par secteur ou par pôle, ça n'a aucun sens, il y a des choses très spécialisées. Je pense qu'à partir de maintenant, il faut raisonner au minimum par bassin de population de l'établissement, sinon on est à côté de la cible. Il faut évidemment avoir des soins psychiatriques généraux, ça c'est normal, mais aussi une coordination du parcours des usagers et des soins de réhabilitation psychosociale sur chaque établissement, donc ce qui existe déjà de manière systématique sur certaines régions, je vous remontrerai ça après. Et puis évidemment, une coordination entre les acteurs. Alors pourquoi la pair aidance est importante? Elle n'est pas importante seulement pour les autres usagers. Évidemment, elle va permettre de favoriser l'engagement dans les soins, du fait de la légitimité du discours. On vient d'entendre ça, puis on l'a entendu depuis plusieurs jours, là, depuis le début du congrès. Et évidemment, c'est très important dans la psychoéducation, mais c'est également un levier extrêmement important pour changer les équipes. Parce que quand ils voient ce que peuvent faire, quand ils voient la puissance de la pair aidance, eh bien, ils évoluent spontanément. Là, on l'a vu sur le Vinatier, on a vu apparaître. En particulier avec Camignard, que vous avez vu avant-hier pour ceux qui étaient là, avec son observatoire du rétablissement, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce que ça redonne la parole aux équipes, et c'est les équipes qui discutent avec quelqu'un qui est passé par là et qui s'est rétabli. Et pour changer, pour avoir une demande de changement, il n'y a pas mieux, donc de la pair aidance, il en faut partout, sur tous les établissements, c'est une évidence. Donc il faut trouver le moyen de faire ça en France, maintenant, c'est le moment. Et puis donc l'observatoire du rétablissement, c'est une action scientifique. Donc finalement, le père aidant qui fait tout, bah, il fait enseignement, clinique, recherche, comme on l'a défini en France depuis 1958. Il faut travailler également avec des structures non soignantes. J'en cite une comme ça, j'aurais pu citer les GEM ou plein d'autres choses. Je cite le Clubhouse parce que c'est un formidable lieu d'empowerment. Les usagers, les membres de ces associations, enfin il y a une association en France qui regroupe les trois Clubhouse qui sont à Bordeaux, Lyon et Paris, les membres décident de tout. Il y a des staffs qui sont des employés, ils sont recrutés avec les membres. Les membres organisent la journée, les membres montent des groupes. Et il y a vraiment un esprit bouillonnant, très positif, qui aboutit à des inclusions sociales absolument magnifiques. Et donc c'est complètement non médicalisé. Alors comment faire? Là je vous ai cité des structures de réhabilitation psychosociale, je vous ai montré un beau schéma. Donc pour l'instant, on a effectivement une cinquantaine de structures, disons à peu près, je ne sais pas, il faudrait les recompter, en France qui font ça, avec des avis, des évaluations multidisciplinaires et le renforcement des compétences des personnes. Maintenant, si on veut faire ça pour tout le monde, parce que c'est une question d'équité, il va falloir vraiment multiplier les moyens au moins par 20 sur les structures existantes. On a fait le calcul sur le Vinatier, il y a peut-être environ 16 000 personnes qui ont besoin de ça, Filactive 800. Donc il faut multiplier par 20 le nombre de personnes, ce n'est pas possible. Donc si on fait ça, ben, il va y avoir des laissés pour compte. Si on veut faire ça correctement, si on pense que c'est utile, il va falloir partager avec les secteurs de psychiatrie générale une partie de l'activité. Et je pense que c'est complètement faisable, assez rapidement, avec des formations que je vais vous citer juste après. Je pense que les évaluations psychosociales, la construction du plan de rétablissement, du plan de réhabilitation qui soutient le plan de rétablissement, la psychoéducation, l'entraînement des compétences sociales, ça doit être sur tous les secteurs en France. Sur les structures extra-hospitalières et ambulatoires, évidemment, et mobiles. Et puis, ça laissera aux structures spécialisées, évidemment, tout ce qui est le plus technique, les évaluations neuropsychologiques, de la cognition sociale, la remédiation psychocognitive, pardon, d'autres soins spécialisés, et puis les actions de formation, et là, on ne va pas être en reste. On en parlait avec Isabelle Amado tout à l'heure. Si on veut vraiment faire ça, des actions de formation, il va falloir en déployer beaucoup, donc priorité à la formation pour ces structures-là dans les années à venir, à mon avis. Alors, quelles sont les formations possibles? Il y a du point de vue pratique, donc il y a différents niveaux de technicité qui peuvent être transmis aux équipes. Tout d'abord, évidemment, il faut commencer par une modification des modalités relationnelles. L'approche centrée rétablissement, c'est déjà traiter différemment la personne en face de soi. Alors, moins de 25 heures, ça ne va pas suffire. Mais ça peut déjà initier le mouvement. Il faut bien commencer par quelque chose. Si on met la barre trop haute, de toute façon, on ne fera rien du tout. Donc ça, on peut commencer par le faire, par des petites formations de 3 jours à peu près. Les former à la coordination de parcours, les former à l'évaluation psychosociale. Ensuite, technicité intermédiaire, psychoéducation. 40 heures, 80 heures, on forme les personnes à l'éducation thérapeutique, c'est les critères actuels. À l'entraînement des compétences sociales, la pair aidance, ben, on a une formation associative qui commence le 14 janvier, qui est en 87 heures, si je me souviens bien, enfin 80 environ. Après, il y aura un DU l'année prochaine, qui est la formation du CCOMS, où c'est beaucoup plus long. Mais déjà, on arrive à quelque chose. Il y a déjà eu 2 promotions, on le sait. Hein, Sylvie Tricard est dans la salle, je sais qu'elle est là, voilà. On sait que ça marche. On peut le faire en moins de 100 heures, un petit peu moins. Évidemment, c'est mieux de le faire en plus. Et puis, technicité élevée, ben, c'est formation à l'évaluation neurocognitive, formation à l'évaluation de la cognition sociale, à la remédiation et au TCC. Donc ensuite, ce que les structures de réhabilitation psychosociale, tout autant qu'elles sont, vont proposer, ce sont des sensibilisations extrêmement courtes, d'une demi-journée, aux principes et outils de la réhabilitation psychosociale et à l'approche entrée rétablissement, des formations brèves de 3 jours à l'évaluation psychosociale, construction et rétablissement, pardon, coordination de parcours, et puis les formations plus larges, c'est les DU, là il faut 1 an, donc ça c'est centralisé, c'est plutôt le centre ressources qui est à Lyon qui propose ça, parce que bah, c'est toute une organisation universitaire qui est beaucoup plus compliquée, ça ne va concerner que certains professionnels. Par contre, les sensibilisations, ça doit toucher absolument tout le monde, et les formations brèves, toutes les équipes doivent bénéficier d'au moins une formation brève, enfin à mon sens, si on veut soigner les gens correctement. Donc qui portera ces actions de formation continue? Bah tous, nous tous ensemble. Voilà, donc ça je ne vais pas revenir sur le détail, je vous ai décrit les structures, vous avez des gens qui pratiquent depuis 10 ans l'approche centrée rétablissement, les outils de la réhabilitation psychosociale, et qui peuvent transmettre tout ça. Donc ça, bah, on a quand même 50 structures sur lesquelles s'appuyer en France, donc on va y arriver. Après, il y a des structures donc, qui sont un petit peu plus touchues, comme le centre ressources dont je parlais à l'instant, qui portent d'autres actions, dont les diplômes d'université, et puis qui recensent également l'offre de soins. Ça, c'est important pour la population. Donc, vous pouvez aller voir, les adresses web sont là. Ils font des manifestations scientifiques et puis offrent une base documentaire. Là, vous avez une adresse web. Vous pouvez voir des fiches de lecture sur les articles qui concernent le rétablissement, la réhabilitation psychosociale, la remédiation cognitive. Je prends les thèses également en PDF et elles sont téléchargeables sur ce site. Donc ça vous met ensemble tous les documents nécessaires dans le domaine. Il y a une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, etc., etc. Classique. Alors comment faire face aux besoins de formation continue? On parle de nouvelles technologies. Je pense que là, vu le besoin de formation, on va en avoir besoin. Donc ça, c'est ce qui est déjà fait pour le second cycle de médecine dans ma faculté Lyon Sud. Donc nous avons, j'ai tout mis en e-learning. Donc là, vous avez en bas à gauche une capture d'écran avec les sessions pédagogiques. Il y en a la moitié ou les trois quarts qui sont cachés. Donc vous avez telle date, on propose tel support, telle date, tel support, telle date, tel support. Et quand vous allez à l'intérieur, vous voyez des films. Donc l'e-learning, c'est basé sur des films. Vous avez des films de simulation relationnelle en haut. Ça, c'est ceux des deux premières rangées. Et puis en bas, mais il y en a 200 en tout, vous avez des films avec tout ce qui est théorique. Et là, ce sont les orateurs qui parlent avec les diapos incrustés derrière. C'est fait dans un studio qu'on a à disposition autant qu'on veut. Donc ça, on va faire le DU de remédiation cognitive comme ça cette année. Et les sensibilisations et formation. Bref, on va enregistrer nos supports également pour pouvoir répondre tous ensemble à vos besoins de formation. Donc la réponse, on l'a déjà, parce qu'on sait que ça fonctionne, ça fait 1 an qu'on le fait. Il faut également qu'on puisse parler des choses de manière plus accessible. Donc ça, c'est Florian Todorov, qui est responsable de la communication au Centre Ressources, qui est financé par la Direction Générale de la Santé, qui a organisé ce concours, dont les prix ont été remis à Lille très récemment, le 21 septembre, au congrès de la FRC. Donc concours de vulgarisation scientifique pour rendre accessibles des notions qui paraissent complexes, parce qu'on parle de remédiation, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils vont confondre avec les TCC, ils vont confondre avec tout ce qu'on veut. Donc là, on a ouvert un concours extrêmement simple en disant, vous définissez en moins d'une minute trente sur une vidéo un texte de 2 ou 3 pages maximum ou un dessin, ce que c'est que la remédiation cognitive. C'était ouvert aux personnes concernées, aux profs, aux professionnels. Ben là, vous avez un dessin qui vous définit ça. C'est un prix spécial du jury parce que bon, ce n'est pas forcément ce qui est le plus explicite. Mais par contre, ça a au moins le mérite d'être esthétique et d'apporter quelque chose. Donc en pratique, il faut 2 choses, un changement de posture pour favoriser l'autodétermination, mettre en place des traitements individualisés qui valorisent les compétences, qui permettent de compenser les difficultés, qui mettent en valeur plutôt l'autonomie et la responsabilité que la protection, ça on l'a vu largement pendant les derniers jours, mais aussi pour une partie des professionnels, l'acquisition d'une certaine technicité, savoir construire un plan de réhabilitation, ça je pense qu'il faut que tout le monde sache le faire, savoir pratiquer une évaluation psychosociale, sur chaque équipe plusieurs personnes, savoir évaluer l'autonomie, sur chaque équipe plusieurs personnes, et puis une partie, enfin sur un hôpital, quelques personnes qui sont thérapeutes en médiation cognitive, plus sur chaque secteur en psychoéducation, et puis évidemment, pour avancer, faire un travail en réseau. Je vous remercie de votre attention. Il reste 4 minutes 08 pour les questions. Alors, s'il y a des questions. Moi, je crois, oui.
Dans les exemples des usagers, vous avez insisté sur l'accès à l'emploi. Oui. Moi, ma question, c'est que j'ai la notion qu'il y a une forte demande implicite ou explicite d'accès à la parentalité. La oui. parentalité est une fonction complexe, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Oui. J'aimerais avoir votre sentiment, puisqu'on a des chiffres extrêmement flous, mais qui indiquent qu'un grand nombre d'enfants, de femmes schizophrènes, je laisse les messieurs de côté, sont des enfants placés. Et je me demande dans quelle mesure il n'y aurait pas moyen d'améliorer leur capacité à être en relation avec l'enfant. Vous avez noté les relations comme un des facteurs importants, autour de 50%. Qu'est-ce qu'il en est de la parentalité?
Alors, je n'ai pas de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que très concrètement, dans le centre référent lyonnais, une infirmière et la médiatrice de santé père, Camille Niard, que vous avez vu avant-hier, ont monté un groupe sur la parentalité, qui a un grand succès, qui est plein. Là, c'est la deuxième session qui commence. Ça a énormément de succès. Ça va du conseil génétique à comment prendre soin de son enfant. Enfin, tout est abordé. Donc, ça permet de sensibiliser, de faire avancer les personnes ensemble. Donc, on a ce groupe-là. Mais là, je n'ai pas de chiffres. Hein. La cohorte ne recueille pas ça. Donc, je peux pas dire plus. En tout cas, c'est un problème, évidemment, et un besoin pour les personnes, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires?
Juste une remarque, comme on est en plein dans le sujet, on l'est en tant que colloque, en tant qu'ADES, mais puis en tant qu'établissement, et puis avec quelques autres. Je crois qu'on arrive vraiment au moment où, au-delà des questions de projet médical, de projet d'offre de soins, on est confronté, et c'était le sujet de cet après-midi évidemment, chacun dans nos établissements, si on admet qu'on doit s'y mettre, et on n'est pas que des directeurs dans la salle, heureusement, pour aborder ce sujet, on est confronté à la question de savoir comment on déploie. Donc on voit que ce qu'il y a un peu là dans le guideline, c'est le début d'un processus de déploiement qui suppose que là où il y a des structures, elles portent la formation et qu'elles fassent moins directement, puisqu'on voit bien que si elles font directement, elles ne touchent qu'une partie de la patientèle connue ou à connaître, hein, puisque on peut supposer que la demande non exprimée est importante en la matière. Et ça veut dire qu'effectivement, la question à laquelle ça renvoie directement, c'est comment est-ce qu'on déploie, et on voit bien que c'est un déploiement par équipe, on voit bien que ça va bouleverser nos plans de formation, et avoir des plans qui deviennent de ce point de vue-là sans doute beaucoup plus directifs, ne serait-ce que parce qu'il faut affecter de la ressource, c'est-à-dire qu'il faut des plannings de déploiement, et ainsi de suite, on est vraiment sur du plan projet, et puis on va buter, parce que je trouve que Nicolas était très politiquement correct, sur la question de savoir si ceci vient, dans notre bonne vieille tradition française, se rajouter, ce qui n'est pas possible sur les équipes existantes. Autrement, on bute tout de suite sur une question de ressources, et puis on vient qu'il n'est pas opportun de rajouter. Donc ça pose bien la question de la part qui va se substituer. Et c'est sans doute la question la plus difficile à affronter, ce qui permet de reboucler avec les questions de projet médical et autres. Mais parions sur la culture de la preuve, mais là j'entends la preuve concrète, la culture de l'exemple. Je crois que l'idée c'est vraiment cet après-midi de se dire qu'on passe à l'acte et que c'est pas si compliqué que ça en termes de contenu, parce qu'on est plutôt dans les évidences. Depuis deux jours et demi, on est plutôt dans les évidences et dans le comment on fait. Et je pense qu'une partie du comment on fait, c'est de se dire que maintenant il faut passer à l'acte.
Oui, merci pour cette remarque. De toute façon, tout ce qui peut se faire ailleurs dans le monde médico-social ou dans la société doit se faire là-bas, mais pas à l'hôpital. On peut édicter ça comme principe, je pense que tout le monde est d'accord. Après, c'est repérer ce qui peut se faire ailleurs. C'est pour ça que j'ai parlé un peu du clubhouse, une petite ouverture.
Merci pour votre présentation. J'ai compris qu'un programme de remédiation et de réhabilitation se plaçait dans un projet de santé ou un projet de vie.
Oui,
de vie. Il fallait qu'il y ait d'abord projet. Et j'ai aussi compris, alors attendez, que en fait il s'agissait d'un changement de culture, d'un changement de mentalité vis-à-vis du patient, de redéploiement de moyens. Et du coup, je me dis que pour le médico-social et le social, il s'agit aussi d'un changement de culture. Et pourtant, on n'en entend pas parler de ce type de démarche dans ces secteurs. Comment est-ce qu'on fait?
Oui, tout à fait. Je pense que plus ça avance ensemble, mieux c'est. Pour vous citer un exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui me concerne plus directement, en plus des centres référents de réhabilitation psychosociale et des centres de proximité, nous développons sur chaque département des SAMSA de réhabilitation psychosociale, orientés logement, avec un accès direct au logement avec des conventions. L'idée, c'est qu'il y a un parcours et que quand les capacités des personnes ont été montrées, qu'elles puissent accéder, si elles en ont besoin, à ce SAMSA et accéder au logement en même temps.
Moi, je voulais rajouter que sur l'Île-de-France, je me lève, il y a aussi ce changement de culture au niveau des structures médico-sociales, il commence à apparaître. Alors, beaucoup de nouveaux projets sont proposés, beaucoup de structures se saisissent des appels d'offres qui passent pour proposer des systèmes innovants. Et en fait, ça, il y a vraiment un début de cohérence entre le sanitaire qui bouge d'un côté, le médico-social qui bouge de l'autre. Donc, à mon avis, à un moment, on va arriver à avoir quelque chose qui va être en synchronie. Quoi.
Et puis les projets territoriaux de santé mentale donnent une belle occasion. Tout le monde est là, autour des usagers qui sont là également. Donc c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux.